travail-là et ce travail d'émancipation par la culture, il est, je pense, aujourd'hui urgent.
La chose fondamentale pour nous, c'est que le public ait accès à l'œuvre et puisse se faire sa propre idée des œuvres.
Par contre, il y a un changement de paradigme à entreprendre pour agir avec les gens et pour travailler ces interrelations entre des cultures différentes.
À l'occasion du mois de la laïcité, la Ligue de l'Enseignement, un immense réseau d'associations d'éducation populaire, vous propose une série de podcasts sur cette notion souvent mal comprise, mal aimée, mal transmise. Je m'appelle Apolline, je suis journaliste et dans cet épisode, j'ai discuté avec Hélène Lacassagne et Agnès Tricouard des droits culturels, de la liberté de création et de diffusion et de la façon dont ces sujets pouvaient s'entremêler avec celui de la laïcité. Hélène Lacassagne est vice-présidente de la Ligue de l'Enseignement en charge des arts et de la culture et Agnès Tricouard est avocate et déléguée de l'Observatoire de la liberté de création, une structure créée en 2002 qui regroupe une quinzaine d'organisations des différents domaines culturels, toutes solidaires face à la censure. Bonne écoute sur S'associer pour agir, le média de la Ligue de l'Enseignement. Avant de se lancer dans la discussion sur les droits culturels qui va suivre, je vous propose un rappel chronologique et juridique pour comprendre ce que recouvre l'expression « droit culturel ». En 2001, la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle nous dit que la défense de la diversité culturelle est un impératif éthique inséparable du respect de la dignité de la personne humaine. Elle implique l'engagement de respecter les droits de l'homme et des libertés fondamentales, nous y reviendrons. Nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de l'homme garantis par le droit international, ni pour en limiter la portée. Cette déclaration, c'est le premier texte fondateur sur les droits culturels, où il est question de respect de la diversité culturelle et de droit des personnes à pratiquer la culture de leur choix, dans le respect des droits de l'homme toujours. On parle donc ici de la culture au sens anthropologique du terme. En 2005, une convention de l'UNESCO sur la promotion de la diversité des expressions culturelles insiste beaucoup sur les conditions qui permettent aux cultures de s'épanouir et d'interagir. C'est un texte qui encourage le dialogue entre les cultures, un point central de l'éducation populaire selon la Ligue de l'Enseignement, comme Hélène nous l'expliquera plus tard. En 2005, toujours, la Convention de Faro concerne plutôt le patrimoine culturel. Elle invite à préserver le patrimoine culturel et assurer aux citoyens le droit d'y accéder et d'y participer. Puis en 2007, la Convention de Fribourg insiste sur la protection de la diversité des droits culturels, toujours au sein du système des droits de l'homme. Tous ces textes sont des conventions internationales, mais en France, c'est en 2015 qu'on voit la notion de droit culturel apparaître dans la loi.
La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État, dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
Maintenant qu'on a tout ça en tête, on peut rentrer dans le vif du sujet. J'ai donc demandé à Hélène pourquoi cette question des droits culturels s'était imposée dans le débat public et qu'est-ce que ça dit de nos politiques publiques culturelles en France.
S'il y a eu de telles interrogations sur cette question-là, c'est parce qu'on est quand même sur un constat d'échec des politiques de démocratisation culturelle. On n'est pas dans une véritable démocratisation parce qu'on n'est pas dans une véritable démarche d'appropriation et d'émancipation. Et on n'est pas dans l'éducation populaire.
Alors, pour illustrer cet échec des politiques de démocratisation culturelle, Hélène prend l'exemple phare qui a marqué ces dernières années, celui du pass culture.
Le pass culture, c'est de la démocratisation pure, c'est-à-dire on donne un chèque à des jeunes gens pour qu'ils accèdent au spectacle, au cinéma, une expo, etc., ce qui est très bien. Mais cette démocratisation pure, elle n'est pas accompagnée. Il n'y a aucune médiation. Tout le travail de mise en relation, tout le travail patient qu'on a l'habitude de faire, ce travail-là, il est évacué. C'est-à-dire qu'on est dans une contradiction totale avec l'objectif recherché.
Et quand la démocratisation de la culture, c'est-à-dire les politiques d'accès à la culture pour toutes et tous, n'est pas accompagnée, que se passe-t-il ? Eh bien, ce sont les personnes qui en ont le moins besoin qui en bénéficient, c'est-à-dire, pour reprendre l'expression utilisée par Hélène, qu'on arrose l'herbe là où elle est déjà verte. C'est selon elle le gros problème de ces politiques publiques. Et c'est le travers auquel tentent de répondre les associations de l'éducation populaire, en travaillant sur l'émancipation des citoyens et des citoyennes. Parce que la liberté de pratiquer la culture de notre choix ne nous sert pas à grand-chose si on n'a pas les outils pour l'exercer. Le désir d'aller voir un spectacle de théâtre, d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas culturellement, ne va pas naître de nulle part. En d'autres mots, si on souhaite que les gens inventent leur propre chemin, il faut que l'accès à la culture soit accompagné d'un programme émancipateur. Et c'est cet aspect qui est au cœur de l'esprit d'éducation populaire de la Ligue de l'Enseignement.
La Ligue de l'Enseignement, elle travaille dans le domaine de l'éducation artistique, à tous les âges de la vie. Elle accompagne des associations qui ont des projets culturels extrêmement divers. Mais ce qui est important dans ce qui est dit des droits culturels, c'est qu'on n'agit plus pour les gens, mais on agit avec eux. On passe à autre chose qui implique les personnes et qui les respecte dans leur dignité. Il n'y a pas forcément d'action particulière à nommer. Par contre, il y a un changement de paradigme à entreprendre pour agir avec les gens et pour travailler ces interrelations entre des cultures différentes. Et pour travailler le partage des ressources culturelles, un partage qui soit plus égalitaire des ressources culturelles et de toutes les ressources culturelles, y compris l'accès aux œuvres. Voilà, et donc, et ça dépasse complètement la question de la pratique culturelle.
Ne plus imposer une culture descendante, mais mettre en place des actions d'éducation artistique qui se construisent avec les gens, les enseignants, les jeunes, les artistes, les institutions culturelles du territoire, bref, inclure dans la construction du projet culturel.
Cette mise en relation, elle implique de changer de paradigme, c'est-à-dire de réfléchir à plus loin que travailler avec, parce que faire avec, ça on sait faire déjà. Mais aller plus loin dans la relation, dans une relation de réciprocité. Non seulement elles participent à une action culturelle, mais elles sont co-autrices, elles sont dans la réalisation du projet et on co-évalue, on est ensemble.
Pour expliquer à quel point ce changement de paradigme est essentiel, Hélène cite une définition de l'œuvre qu'elle emprunte à Jean Villard. Lorsque vous allez voir un spectacle, c'est une œuvre si vous en sortez augmentée. Alors il nous faut respecter les personnes en égale dignité, reconnaître qu'elles sont toutes porteuses de culture et assurer le partage de ces ressources culturelles, y compris des œuvres, qui nous augmentent. Cette définition de l'œuvre, empruntée à Jean Villard, est intéressante car c'est précisément dans ce jugement de valeur, ce qui nous augmente, qu'il y a un frottement au sein du public. Parce que des personnes considèrent aujourd'hui que certaines œuvres les diminuent. Et donc elles vont tout faire pour contester la proposition culturelle qui leur est faite. C'est ce que nous explique Agnès.
Ils vont considérer que l'œuvre proposée porte atteinte à leur dignité spirituelle, ou porte atteinte à la dignité en tant que femme, etc., etc., ou en tant que non-blanc. Et ce sont des endroits où finalement la question de la diversité culturelle qui est au cœur de ce que vient d'expliquer Hélène, devient potentiellement conflictuelle. La question de la diversité, elle a cette vertu qu'elle remet en cause ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire une forme de culture ascensionnelle qui descend. Et qu'elle suppose que l'on écoute ce qui vient des gens à qui on s'adresse. Or, il se trouve aujourd'hui qu'il y a des tas de dissensus qui sont notamment le résultat du fait qu'on n'a pas écouté pendant très longtemps ce qui venait des gens à qui on s'adressait. On leur a plutôt demandé d'oublier d'où ils venaient pour pouvoir avoir accès à une culture émancipatrice proposée du haut.
Ce que nous dit Agnès, c'est que si l'on veut que l'œuvre atteigne son public, il faut que l'histoire et l'identité culturelle de ce public soient prises en compte. C'est là que la rencontre culturelle a véritablement lieu. Elle nous donne un exemple avec le film « L'esquive », réalisé par Abdelatif Kechiche.
Regarde le travail que Kechiche avait fait avec une pièce de Marivaux. Kechiche montre qu'une pièce de Marivaux, donc d'un auteur d'un siècle qui est très éloigné, avec des problématiques qui sont très éloignées, peuvent intéresser des élèves qui sont issus de la diversité peuvent être pris en charge par ces élèves parce qu'il y a ce que décrivait Hélène tout à l'heure, c'est-à-dire un travail d'accompagnement qui fait que tout d'un coup, ces élèves arrivent à prendre en charge une problématique qui leur est a priori complètement étrangère. C'est parce qu'il va les chercher dans ce qui les intéresse aujourd'hui. Et tu vois bien dans la façon de jouer des élèves, qui est remarquable, qu'ils s'approprient et ils nourrissent avec ce qu'ils sont, qu'ils remâchent et qu'ils retraduisent, quelque chose qui tout d'un coup a à la fois la charge nourrissante du texte de Marivaux, mais aussi la charge extrêmement nourrie de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils sont. Et ça donne une force au texte théâtral qui est tout à fait extraordinaire. Quand on fait ce travail-là en tenant compte des individus, de ce qu'ils sont, de leur histoire culturelle, ça marche.
Une fois le sujet des droits culturels et de leur mise en œuvre clarifié, j'ai demandé à Hélène et Agnès comment faire le lien entre ce sujet et la question de la laïcité. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la façon dont les droits culturels sont interprétés et appliqués sur les territoires, il existe des zones de friction avec la liberté de conscience ? Hélène commence avec l'exemple d'une culture qui nie les droits culturels en voulant s'imposer comme dominante.
La culture nationaliste, c'est une culture qui s'impose comme culture dominante, demandant aux autres de se soumettre à cette culture-là, d'être assimilée, d'entrer dans le moule. Et c'est absolument contraire aux droits culturels. Et c'est contraire aussi à la liberté de conscience de chacun.
Et Agnès poursuit avec un autre frottement entre certains groupes intégristes catholiques pour qui la culture est un objet qui doit être régulé. Les œuvres, selon eux, devraient répondre à des principes religieux. Ces groupes s'intéressent au travers de ce prisme à l'ensemble de l'offre culturelle, même celle qui n'est pas en lien avec la religion.
En France, nous considérons que les religions sont dans le libre débat. Et de façon très ferme, cette décision politique que l'on doit remettre en œuvre sans arrêt, parce qu'elle est contestée sans arrêt, notamment par des groupes catholiques intégristes qui remontent au créneau régulièrement parce qu'ils n'admettent pas que la religion catholique ne soit pas au centre de tout ce qui se passe en France. Je donne un exemple, l'association Promouvoir, qui est une association catholique intégriste, fait la pluie et le beau temps de la censure au cinéma pour tout le cinéma d'auteur. C'est-à-dire que tu as un monsieur qui est un ancien juge d'un tribunal administratif, qui va regarder un certain nombre de films, et qui va notamment au nom de la protection de l'enfance, c'est un biais ici, la protection de l'enfance, qui va considérer que les représentations de certains films d'auteurs sont inaptes à être présentées à des enfants, et qui va donc demander au tribunal ou au conseil d'État de censurer un film. Tout ça à partir d'un prisme religieux, mais qui n'est plus explicite, mais qui va lui permettre, quand il trouve un écho, et il en trouve très souvent devant les juridictions administratives, d'augmenter le degré de censure des films. Il y a une espèce de second contrôle qui va se faire par cette association intégriste qui va regarder les visas, qui va regarder les films, qui va ensuite saisir les juridictions administratives, et qui a un écho incroyable depuis 25 ans devant les juridictions administratives. Il y a un grand problème au cinéma.
En fait, tout ce travail de long terme de l'association catholique intégriste en question se fait au détriment de la liberté de création. Alors justement, qu'est-ce que la liberté de création ? Eh bien d'abord, c'est une liberté qui n'existait pas en 2002, lors de la création de l'Observatoire. C'est cette structure qui l'a théorisée. C'est dans un second temps que la liberté de création est rentrée dans la jurisprudence, dans la loi, puis a été reconnue comme liberté fondamentale. Et le principe de la liberté de création, c'est de dire que les limites d'expression qui s'appliquent à tous les citoyens, à vous, à moi, ne sont pas valables dans les œuvres.
Parce que dans une œuvre, un personnage a le droit d'avoir un comportement répréhensible dans la vie. Je donne un exemple, un personnage de roman peut avoir une expression raciste qui est parfaitement compréhensible dans le cadre du roman, et pour autant, cela ne veut pas dire que l'auteur du livre est raciste.
Donc, la liberté de création, c'est tenir compte du fait qu'il y a un objet particulier qui s'appelle la création. Et c'est là que les choses se compliquent encore plus, car il est très difficile de définir les contours de la création. Par exemple, tout le monde est d'accord pour considérer que les chansons sont des œuvres. Mais, depuis toujours, certaines chansons engagées tiennent un discours sur la société. Et dans ce cas-là, c'est difficile de savoir si le contenu de la chanson peut vraiment être dissocié de la personne qui le tient.
Et ce conflit-là, entre l'adresse au réel et l'adresse fictionnelle, c'est un problème d'interprétation que l'on rencontre extrêmement fréquemment. Et nous sommes, à la Ligue des droits de l'homme, nous sommes dans une position qui n'est pas univoque sur le sujet. J'ai l'exemple en tête de poursuites que nous avons pu engager contre des rappeurs antisémites et racistes.
Genre Paris Hilton, les meufs qui sucent des gueules de la taille de celle de Lexington. T'es juste bonne à te faire péter le rectum. Même si tu disais des trucs intelligents, t'aurais l'air conne. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Les histoires d'amour, ça commence bien, ça finit mal. Avant je t'aimais, maintenant je rêve de te voir imprimer de mes empreintes digitales. T'es juste une putain d'avaleuse de...
Vous vous souvenez de cette chanson? Elle s'appelle Sale pute et elle est écrite et interprétée par le rappeur Orelsan. À l'époque de sa sortie, des organisations féministes portent plainte pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre les femmes. Il est condamné en première instance, puis relaxé par la cour d'appel.
Le personnage joué est chanté par Orelsan, et je dis le personnage à dessein parce que beaucoup de gens y ont vu Orelsan lui-même. Donc Orelsan jouait le rôle d'un type qui boit parce qu'il est triste de la rupture avec une fille, qu'il insulte. Et donc l'ambiguïté de ce texte, c'est que ce texte, si tu le lis seul et détaché de son contexte, tu peux l'interpréter comme un texte qui s'en prend aux femmes dont il est question dans le texte. Alors, les féministes disaient deux choses, elles disaient c'est Orelsan, le personnage qui chante, et il s'en prend à toutes les femmes. Et la cour d'appel vient rappeler quelque chose de fondamental. Le rap, c'est un genre de musique très particulier dans lequel on a l'habitude de forcer le trait, un peu comme dans le genre de la caricature. C'est un personnage qui chante. Il ne s'en prend pas à toutes les femmes, il s'en prend à la femme fictionnelle avec laquelle le personnage fictionnel a rompu. Donc, ça reste justement dans le domaine de la liberté de création. Ça n'est pas répréhensible.
Je rêve de voir souffrir, bébé.
Des affaires Orelsan, on en a beaucoup en tête. Elles se sont multipliées ces dernières années contre les films, les expositions, les romans, les chansons, les spectacles. Et ça, c'est assez inquiétant selon Agnès et Hélène.
La liberté de création est de plus en plus menacée dans le sens où, moi j'enseigne aussi, aujourd'hui tous mes étudiants sont des censeurs. Ils veulent tous, pour des raisons multiples et variées, que l'on limite la liberté de création et de diffusion des œuvres, pour des raisons antiracistes, antimasculinistes, etc., etc. Le consensus, quand on a créé l'Observatoire, il était autour de la liberté de création. Pourquoi ? Parce qu'on luttait contre toute forme d'intégrité. Et que ça, il y a un consensus social et politique qui ne fait pas de difficulté. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que la liberté de création est confrontée à d'autres régimes de protection auxquels on est tous attachés. Le racisme, le féminisme, et ça a commencé avec l'affaire Exhibit B en 2014, cette histoire.
Exhibit B, c'est un spectacle diffusé par le théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis en 2014 qui était jugé raciste par plusieurs associations, collectifs et militants antiracistes qui ont donc réclamé sa suspension. Et alors là, la première question qui se pose pour l'Observatoire, c'est est-ce que cette œuvre est en effet raciste? Et cette question va susciter des divergences d'interprétation. En l'occurrence, sur cette affaire, l'Observatoire avait jugé, comme d'autres grandes organisations antiracistes, qu'Exhibit B n'était pas raciste. Et des exemples comme celui-ci, Agnès en a plein en stock.
Quand des intégristes ont essayé d'empêcher le spectacle au Théâtre du Rond-Point parce qu'il était accusé de blasphème, nous avons, avec l'accord du directeur du théâtre, mis une grande banderole à la place de la banderole d'accueil du Théâtre du Rond-Point en disant « Chacun est libre d'interpréter les œuvres et de s'en faire sa propre opinion. » Des manifestantes féministes proches de MeToo Théâtre ont essayé d'empêcher la première du spectacle de Wajima Ouad parce que Bertrand Cantat avait fait la musique. Là, nous disons, il y a un franchissement de ligne rouge. Cette ligne rouge étant que on peut manifester un désaccord politique avec une œuvre, mais pas l'empêcher. Parce que la chose fondamentale pour nous, c'est que le public ait accès à l'œuvre et puisse se faire sa propre idée des œuvres.
Que le public ait accès à l'œuvre et qu'il puisse se faire sa propre idée des œuvres. C'est cet objectif qui nous montre le lien entre les droits culturels expliqués par Hélène et la liberté de création et de diffusion défendue par Agnès dans ce podcast. Et si la Ligue de l'enseignement est représentée lors de cet échange, c'est bien parce que l'éducation populaire a toute sa place dans ce combat, comme nous l'a expliqué Hélène.
Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui est confrontée à trois urgences, qui sont l'urgence sociale, l'urgence écologique et l'urgence démocratique. Tout ça crée un climat qui n'est pas très favorable à la liberté d'expression, à la liberté de création et au respect des droits culturels des personnes. On a un devoir de réaction par rapport à ça. Le travail de l'éducation populaire, il peut se placer là aussi. Ce travail de mise en relation des gens, ce travail d'éducation artistique à tous les âges de la vie, mais qui intègre les personnes et qui prend en compte leur culture, et qui prend en compte leur culture au sens large, hein. Ce travail-là et ce travail d'émancipation par la culture, il est, je pense, aujourd'hui urgent, nécessaire et urgent.
Merci beaucoup à Hélène Lacassagne et Agnès Tricoire pour leurs réponses sur les sujets des droits culturels, de la liberté de création et de diffusion. Si vous souhaitez en apprendre plus, je vous invite à consulter la section « Pour aller plus loin » sur le site laligue.media. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous parlerons de laïcité dans l'accueil et la restauration collective. Merci pour votre écoute et à bientôt sur S'associer pour agir.